Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, première descente sur le terrain pour le nouveau chef de la MONUSCO à Beni. Première étape de cette mission, James Swan va entamer les consultations avec les différents interlocuteurs. Son programme prévoit en effet des échanges avec les autorités provinciales, des responsables politiques et des représentants de la société civile. La première vague des ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis est arrivée ce week-end à Kinshasa. Interrogée sur le plateau de TV5 Monde, la première ministre Judith Suminwa a indiqué qu'il s'agit d'un service rendu par la RDC aux USA dans le cadre d'un accord signé entre les deux pays. Mettre en lumière le parcours réel des femmes et leur résilience face aux épreuves de la vie, tel est l'objectif du magazine La Résilience, publié par les éditions Ben Luton à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons Jeanne d'Arc Mbambou, rédactrice en chef du magazine. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio de la paix. Première descente sur le terrain pour le nouveau chef de la MONUSCO. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, James Swan, a entamé ce lundi une tournée dans la province du Nord Kivu. À son arrivée à Beni, chef-lieu provisoire de province, il a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par les autorités provinciales. Une mission axée sur la sécurité et les échanges avec les acteurs locaux. Les détails avec Martial Papimukeba.
À Beni, première étape de cette mission, James Swan va enchaîner les consultations avec ses différents interlocuteurs. Son programme prévoit en effet des échanges avec les autorités provinciales, des responsables politiques et des représentants de la société civile. Objectif, faire le point sur la situation sécuritaire et recueillir les préoccupations des acteurs locaux. Le chef de la mission onisienne prévoit également une descente dans les territoires de Beni, région régulièrement ciblée par les attaques des rebelles des ADF en fait de se rendre compte de la réalité du terrain et voir éventuellement comment améliorer la réponse de la MONUSCO face aux attaques des groupes armés et pour une meilleure protection des civils. Cette visite, la première dans l'est de la RDC depuis la prise des fonctions de James Swan il y a deux semaines, va se clôturer ce mardi 21 avril. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, en Ituri, les autorités coutumières du territoire de Djougou sensibilisent les déplacés à regagner leur village où la sécurité est rétablie depuis plusieurs mois. Elles les appellent également à renforcer la cohabitation pacifique avec les communautés locales afin de consolider la paix dans la province. Depuis le début du mois d'avril, ces autorités effectuent une tournée dans la région pour encourager les populations déplacées confrontées à des conditions de vie difficiles dans leur lieu de refuge. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Plusieurs entités du territoire des Djougou connaissent aujourd'hui une accalmie. C'est notamment le cas des Kobou, Bambou, Nizi, Fataki, Djougou Centre et Lopa. Dans ces localités, de nombreux déplacés sont déjà retournés et ont repris leurs activités habituelles. Ils s'adonnent au commerce, à l'agriculture, à l'exploitation artisanale de l'or, ainsi qu'à l'élevage du petit bétail. Cependant, d'autres déplacés hésitent encore à rentrer, malgré les conditions difficiles dans les sites de refuge où l'aide humanitaire se fait de plus en plus rare. Pour encourager leur retour, plusieurs chefs coutumiers, notamment ceux des secteurs de Walindou Dzati et de Walindou Piti, multiplient des actions de sensibilisation. Selon eux, la sécurité est rétablie depuis plusieurs mois grâce notamment au renforcement de la présence des FARDC qui assure la protection des populations. Ces autorités appellent également les communautés à promouvoir la cohabitation pacifique pour consolider une paix durable dans la région. Toutefois, elles déplorent que dans certaines localités, des habitations des déplacés aient été détruites ou incendiées. Elles procède actuellement à l'identification des besoins des retournés et lance un plaidoyer auprès des acteurs humanitaires pour accompagner leur réinstallation. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Pendant ces temps, au Nord Kivu, des violents combats opposent depuis ce matin les rebelles de l'FCM-23 à une coalition des groupes armés Wazalendo dans le village des Mitimingi. La zone se situe dans le groupement d'Oufamundu 2 en territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, les affrontements ont repris dimanche après un peu plus de 4 jours d'accalmie. Les détails avec vous, Élisée Chikota Chivoita.
D'après des sources de la société civile locale, les combattants Wazalendo ont lancé une attaque aux environs de 4 heures de ce lundi matin, heure locale, contre les combattants de la FCM-23 qui progressaient déjà vers Mitimingi. Il s'agirait, selon ces sources, d'une contre-offensive consécutive à une attaque menée dimanche par les rebelles contre une position de Wazalendo du groupe Pareco Force des Frappes dans le village de Kachuka, situé dans le groupement du Famandu 2. Toute la matinée de ce lundi, des détonations d'armes lourdes et légères étaient audibles dans plusieurs villages de la zone. Nos sources précisent que des factions du Pareco alliées au Maïmaï Lamouka, dirigées par Noah Machano, seraient impliquées dans ces combats. Pour ces mêmes sources, la reprise des affrontements dans cette partie du territoire de Masisi aggrave davantage la crise humanitaire déjà préoccupante. Depuis près de 2 semaines, une dizaine de villages se sont presque entièrement vidés de leurs habitants. Les derniers civils qui se trouvaient encore à Mitimingi et Kachuka ont à leur tour quitté la zone dans la soirée de dimanche pour trouver refuge à Kirambo, situé à environ 8 kilomètres. D'autres déplacés ont traversé vers le groupement de Waloa, Luanda, dans les territoires voisins de Walikale.
Et puis une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant des militaires en train de tabasser un civil dans une parcelle à Kinshasa suscite indignation et réaction, y compris au sommet de l'État. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire pour établir les responsabilités. Les détails dans cet élément de Grâce Amzati Massanzi, rendu par Benjamin Malabar Moudoumbi.
Les ministres de la Justice ont dit qu'avoir été saisis par un lanceur d'alerte au sujet des graves violences imputées à des éléments en uniforme. Les faits se seraient produits dans la nuit du 18 au 19 avril aux environs des 4 heures du matin dans la commune de Ngaliema au quartier Pigeon. Selon le ministère, les actes dénoncés pourraient constituer des infractions graves, notamment des faits de torture, des coups et blessures volontaires, ainsi que des incitations à commettre des actes contraires à la loi. Face à la gravité de la situation, les ministres de la Justice donnent injonction à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, d'ouvrir une enquête judiciaire. Objectif, établir les faits, identifier les responsables et engager des poursuites devant les juridictions compétentes. Le gouvernement rappelle que de tels agissements constituent une violation des principes fondamentaux, notamment le respect de la dignité humaine et l'interdiction de la torture.
Je le disais en titre, la première vague des ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis est arrivée ce week-end à Kinshasa. Interrogée sur le plateau de TV5, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a indiqué qu'il s'agit d'un service rendu par la RDC aux États-Unis. Tout en privilégiant l'apaisement, elle a précisé qu'il s'agit d'un accueil temporaire dans le cadre d'un accord conclu entre les deux pays. Concernant leur nationalité d'origine, la chef du gouvernement congolais, sans entrer dans les détails, a laissé entendre qu'il s'agit des ressortissants des 3 pays d'Amérique latine. On écoute Judith Suminwa Tuluka dans cet extrait proposé par Alain Irung Mushing.
Ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays. On n'a pas encore calculé, mais ils sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant. Donc, dans le respect justement du droit humanitaire international, la République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge en fait leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale de migration. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir. Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres, mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment.
Mais que pensent les Kinois de l'arrivée de ces ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis? Les opinions sont contrastées entre soutien diplomatique, inquiétude sociale et critique politique. Ces débats mettent en lumière le défi de la RDC face à la mondialisation et à la gestion des flux migratoires internationaux. On écoute quelques Kinois au micro de Nancy Tambo.
Personnellement, je suis pas d'accord parce que je vois comme sur notre pays, on n'est pas encore prêt à assumer certaines responsabilités. Et c'est brusque, vu ce qui se passe au pays déjà avec l'histoire à l'est des pays, on n'a pas encore trouvé la paix. Il y a aussi nos frères au niveau des parcs du Mans, qu'on les avait rejetés. Jusque là, ils n'ont pas encore des endroits pour les mettre. Alors, ceux qui vont venir maintenant, ils seront installés où?
Concernant l'arrivée des immigrés, ici en RDC, en tout cas, moi, je dirais que je suis contre. Déjà, avec la manière dont les pays sont en train de marcher, avec les conditions de vie que nous trouvons déjà auprès de la population, ramener encore ici en RDC des immigrés qu'on ne maîtrise pas d'abord l'identité, cela accentue seulement l'insécurité.
C'est purement politique, vous savez. Dans la politique, il y a des choses visibles et il y a des choses invisibles. Il y a des accords qui sont dits. Et il y a de ces choses qu'on ne dira jamais. Pour nous, je trouve ça que c'est avantagé et c'est désavantagé par rapport au Rwandais. Finalement, ça me dérange pas déjà.
Moi, je crois que le Congo est grand et c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Et on doit même se donner à faire mieux, à construire mieux chez nous. C'est ce qui va apporter un développement, c'est ce qui fera de nous aussi un pays.
Au Nord Kivu, le médecin chef de zone de santé de Kibwa dans les territoires de Walikale alerte sur la flambée des cas suspects de choléra dans trois aires de santé de son entité. Depuis le 9 mars dernier, 56 cas ont déjà été enregistrés avec 6 décès. Selon cette autorité sanitaire, les enfants de plus de 5 ans sont parmi les personnes les plus touchées par cette maladie favorisée par le mouvement de population en provenance du territoire voisin de Masisi qui fuit les affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo. Le docteur Yves Tsongo Bikunde lance un appel à l'aide aux partenaires pour faire face à cette situation alarmante. Bernardine Diambo pour les détails.
Il s'agit des aires de santé de Ntoto, Langira et Kilungu de la zone de santé de Kibua. Pour les médecins chefs de zone, ces trois aires ne disposent pas des intrants de prise en charge ni des mesures de prévention. Le manque d'eau, d'hygiène et d'assainissement, y compris des toilettes hygiéniques, sont des facteurs qui favorisent la propagation de la maladie. Face à cette flambée des cas de diarrhée, le médecin chef de zone dit avoir dépêché sur place un infirmier superviseur pour des investigations poussées. Le docteur Yves Tsongo Bikunde.
Nous avons dépêché un infirmier superviseur pour investiguer et il a confirmé que les cas répondent à la définition des cas de choléra. Et aujourd'hui, on a enregistré 56 cas et 6 décès, dont 25 cas et 3 décès à Langira, 24 cas et 2 décès en Toto, 7 cas et 1 décès à Kilungu. Ce qui est alarmant, nous avons quand même fait une prise en charge des cas, malgré que les intrants sont insuffisants. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme aux partenaires pour essayer de nous appuyer.
De reste déjà, la Croix-Rouge a décontaminé certains ménages et renforcé la sensibilisation de la communauté. En attendant une réponse des autorités compétentes, les acteurs locaux insistent sur le respect strict des mesures préventives. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Dans un autre registre, la ville de Kalemi fait face à des inondations provoquées par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga, particulièrement en période de fortes pluies. Selon la nouvelle dynamique de la société civile Chumvi ya Congo du Tanganyika, l'ampleur des inondations observées cette année est moindre par rapport aux années précédentes. Cette structure citoyenne souligne que les dégâts enregistrés restent limités en comparaison avec ceux des saisons antérieures. Le point avec Paul Munanga.
Cette année, des inondations sont signalées à différents endroits de la ville de Kalemi. C'est notamment au quartier Kamko et Dav. Chirac Issa est le coordonnateur provincial adjoint de la nouvelle dynamique de la société civile Chuvi ya Congo du Tanganyika.
Dans la commune de Kalemi, au sein du quartier Kamko, où au moins 90% de la population était obligée d'abandonner leurs habitations habituelles. Les mêmes situations sont semblables aussi de la commune d'Ilac, dans les quartiers d'Ave, où toutes les maisons qui ont été abandonnées par les gens sont restées vides.
Le boulevard Lumumba, principale artère de la ville de Kalemi, est régulièrement inondé à certains endroits pendant la période pluvieuse. Pour rappel, en 2024, la ville de Kalemi avait connu l'une des graves inondations. La montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga à la faveur des pluies diluviennes avait causé d'importants dégâts matériels et il y a eu plusieurs déplacés. Des habitations riveraines du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ont été envahies par les eaux et abandonnées par leurs propriétaires. Des écoles ont été délocalisées, des églises, des hôtels, des routes et d'autres infrastructures n'ont pas été épargnées. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, les biologistes médicaux et techniciens plaident pour la création urgente d'un laboratoire provincial de référence. Ils ont exprimé ces besoins le week-end dernier lors d'une cérémonie d'échange et de prestation des serments organisée à l'occasion de la Journée internationale de la biologie technique célébrée chaque 15 avril. Selon le président de leur structure, l'absence d'un tel laboratoire fragilise le système de santé avec des diagnostics souvent peu fiables dans les centres de santé et hôpitaux du Maniema. Amissima Soudi Maurice appelle les décideurs à investir dans ces projets afin de sauver des vies et de réduire les coûts de soins pour les communautés de la province. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Comme vous le savez, plus de 70% des décisions médicales reposent sur les résultats des laboratoires sans diagnostic fiable. Les traitements deviennent empiriques, les dépenses de santé augmentent et la mortalité évitable s'accroît. Face aux maladies émergentes et réémergentes telles que Ebola, Covid-19, la tuberculose résistante et le choléra, dans la province du Maniema, la réalité est préoccupante. Absence de laboratoire provincial de référence, équipement insuffisant dans les hôpitaux généraux de référence, dépendance envers d'autres provinces avec retard et coûts supplémentaires. Le laboratoire est un outil stratégique de sécurité sanitaire et économique. Un diagnostic précoce peut réduire de 30 à 50% des coûts de prise en charge. Une épidémie non détectée à temps peut entraîner de lourdes pertes économiques. Nous proposons des actions concrètes, dont la construction d'un laboratoire provincial de référence, équiper les laboratoires des hôpitaux généraux, renforcer les capacités du personnel, assurer un approvisionnement régulier en réactifs.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, le procès de l'attaque terroriste de Kafolo, ouvert fin décembre dernier, se poursuit ce lundi 20 avril devant le tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent à juin 2020. Un poste de contrôle situé à la frontière avec le Burkina Faso est attaqué par des djihadistes. Un attentat revendiqué par les Katiba Massina qui avait fait 14 morts dans les rangs de l'armée ivoirienne. Le parquet avait requis la peine maximale pour 5 prévenus. Et ce lundi matin, les plaidoiries de la défense étaient attendues.
L'invité.
Mettre en lumière les parcours réels des femmes et leur résilience face aux épreuves de la vie, tel est l'objectif du magazine La Résilience, publié par les éditions Ben Luton à Kinshasa. Ce projet éditorial s'attache aux expériences intimes des femmes confrontées à la dépression, aux violences ou encore aux discriminations dans les contextes particuliers de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons Jeanne d'Arc Mbambou, rédactrice en chef du magazine. En entretien avec Martial Papimoukeba.
Jeanne d'Arc Mbambou, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a motivé la création du magazine La Résilience?
C'est pour donner la voix à ces femmes qui traversent des moments difficiles, souvent en silence, et qui ne savent pas comment s'exprimer. Ces femmes, comme elles traversent des moments difficiles, elles ont tendance à se suicider. Comme on connaît la réalité de la dépression et que chez nous, à l'est de la RDC, voire en RDC, c'est un tabou. Alors on a voulu donner l'espace à la femme pour s'exprimer.
Vous avez fait le choix de mettre en avant des histoires vraies des femmes, notamment dans les contextes de l'est et de la RDC. Pourquoi ces focus particuliers?
30% de femmes sur 20% des hommes subissent la dépression, au moins un épisode de dépression dans leur vie, suite aux réalités de l'Est de la RDC. Déjà, dès la France, la femme elle est discriminée, souvent dans la famille, à l'école. On ne considère pas souvent la fille. On dit juste elle sera la femme de quelqu'un. Ça fait que on ne donne pas à la femme la considération, l'expression et le développement. Deuxièmement, après les discriminations et tout, dans la réalité de notre pays, à l'est de la RDC, on sait que le sujet de la guerre amène la femme à s'exposer aux violences sexuelles, on peut dire les violences physiques. Et quand on entre dans la réalité, dans le foyer, on va voir aussi des violences conjugales où les femmes sont frappées, sont maltraitées. On fait que la femme, elle a toujours des épisodes de dépression. Alors, via ces études de Médecins sans frontières à 2022 et des publications de l'OMS de 2024, les femmes sont plus exposées à faire des épisodes de dépression et c'est ce qui nous a motivés à mettre la femme en avant.
Concrètement, quelles sont les principales thématiques abordées dans les magazines et comment sélectionnez-vous les témoignages que vous publiez?
Il y a des thématiques de guerre, donc je peux synthétiser ça à dire femme, paix, sécurité. Comment nous avons sélectionné les témoignages que nous publions? Premièrement, nous avions créé en 2024 un espace pour aider les femmes à faire entendre leur voix. Et l'espace, on n'avait pas donné de nom, c'était avec les femmes déplacées des guerres de Goma, dans les 9 sites, les déplacés des guerres. Et nous avions voulu que les femmes puissent s'exprimer. Nous avons fait un cours d'atelier d'art sur l'écriture et nous avions demandé aux femmes de s'exprimer, de nous donner les récits de leurs histoires qui les touchent à cœur, parce qu'elles ne savaient pas comment s'exprimer et on voyait un peu de dépression dans leur façon d'être, dans leur quotidien. Quand nous avons laissé à ces femmes s'exprimer via la télé d'art sur l'écriture, on était touchés par les histoires de certaines femmes. Et si vous permettez, je peux donner l'exemple d'une fille, elle est albinos, elle a 23 ans. Elle avait été violée 9 fois. Et la première fois, elle était violée par 9 hommes et elle était tombée enceinte. Ensuite, quand elle partait aussi puiser de l'eau, elle était déplacée des guerres. Elle avait rencontré un homme armé qui l'avait violée. Arrivée dans les sites des déplacés des guerres, elle était encore violée. Elle avait commencé à donner des témoignages et elle était d'accord qu'on puisse utiliser son témoignage et elle voulait que les gens puissent savoir son histoire mais ne savait pas comment s'exprimer. Par elle et par les autres jeunes déplacés, on avait eu le courage de vouloir faire entendre les problèmes des femmes, les épisodes de dépression que les femmes de l'Est et la RDC subissent dans leur quotidien. Parce qu'il n'y a pas que son histoire, il y a l'histoire des autres femmes pour leur donner aussi le courage de s'exprimer et de guérir. Parce qu'on dit souvent que quand tu t'exprimes, tu guéris déjà à quelques pourcentages.
À travers ces récits, souvent marqués par des épreuves, quel message souhaitez-vous transmettre aux femmes qui vous lisent aujourd'hui à travers ces magazines?
J'aimerais dire à ces femmes qui subissent des choses en silence, qui vivent la dépression au quotidien, qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont le droit de s'exprimer, qu'elles peuvent s'exprimer et guérir. J'aimerais leur dire de prendre un pas, de prendre le courage de s'exprimer, de faire entendre leur voix.
Est-ce que la dépression, c'est un danger pour la vie des femmes dans l'Est des pays?
Oui, la dépression, c'est un grand danger. Et il y a des femmes qui meurent en silence parce qu'elles ne savent pas libérer les mots, elles ne savent pas où s'exprimer, comment se libérer de ces chaînes.
Jeanne d'Arc Mbambou, merci.
Je vous en prie.
C'était donc notre invité Jeanne d'Arc Mbambou qui s'entretenait avec Martial Papimoukiba. Et c'est ce qui met fin à ce journal, la grande édition de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota-Chivueta, supervisée par Alain Irong Mouchinge et mise en ordre par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.